Aujourd'hui, nous sommes à Biarritz, au Collège Immaculée Conception, et au lendemain du 99e anniversaire de l'armistice de la guerre de 1914-1918, nous sommes avec Michel Esteban. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie ici au Collège Immaculée Conception de Biarritz, et vous inaugurez ce 14 novembre une exposition que vous avez conçue avec les élèves. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une exposition à la fois de documents familiaux collectés par les élèves ici chez les familles du collège, chez les professeurs également. Collecte également d'objets, hein, parce que pour donner du sens à l'histoire, il est bon aussi de manipuler. Et c'est vrai que lorsqu'on peut manipuler des anciens obus, un petit peu tous les objets qui représentent cette guerre, la première guerre industrielle, hein, une guerre qui est une guerre d'anéantissement, hein, véritablement, hein, il est intéressant pour les élèves d'en prendre conscience en manipulant. Hein, donc c'est aussi une méthode pédagogique, bien sûr. Et puis nous sommes dans un CDI, un centre de documentation, et dans ce centre de documentation, il y a des livres, et donc pour les pousser aussi, hein, à lire, donc la responsable du centre a mis en place donc des romans, des bandes dessinées, un certain nombre d'ouvrages, de documents également qui sont orientés vers la Première Guerre mondiale, et notamment avec un regard biarro, hein, puisque ces élèves débutent là un travail sur l'année qui doit les conduire à préparer un voyage en fin d'année à Verdun.
Donc vous avez commencé au mois de septembre à parler de la Première Guerre mondiale, c'est dans le programme d'histoire des troisièmes, c'est ça ?
Alors c'est dans le programme d'histoire des troisièmes, ils ont vaguement entendu parler de la Première Guerre mondiale lorsqu'ils sont en primaire, mais en fait ils découvrent totalement la période du XXe siècle, les périodes des guerres on va dire des séquences de paix, hein, comme dans la séquence de paix dans laquelle nous sommes en Europe actuellement, et puis une transformation, on va dire, du poids de l'humanité au XXe siècle, une humanité qui pendant les périodes de guerre ne compte pas. Voilà. Puisque nous sommes dans des guerres qui touchent de plus en plus de civils, et ça commence avec la Première Guerre mondiale, et ça continue avec la Seconde Guerre mondiale. Donc pour eux, c'est aussi une prise de conscience à travers une étude sur les périodes de conflit, une prise de conscience de l'importance de la paix dans notre monde, une prise de conscience de la relation à l'autre différent, étranger, notamment, et du lien que l'on peut créer avec cet autre différent et étranger pour avoir un monde de paix. Hein. Finalement, c'est le projet européen, et finalement, c'est le projet également des valeurs républicaines, hein, que nous enseignons donc en histoire-géographie, qui sont récupérées, hein, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors Michel Esteban, on va écouter les élèves. Depuis le mois de septembre, effectivement, ils ont appris beaucoup de choses. Donc, ils vont nous partager tout ce qu'ils ont appris en préparant cette exposition. Et on se retrouve juste après. Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Oscar, Oscar Pommier. Je suis en troisième. J'ai 13 ans et je participe à l'exposition Guerre 14-18 du Collège Immaculée Conception.
On est devant des panneaux ici. Je crois que tu as participé à un panneau, en tout cas.
Oui, j'ai participé au panneau sur les tranchées et les conditions de vie des tranchées.
Alors, qu'est-ce que tu as appris ?
Que les tranchées, c'était pas fait simplement de terre, et qu'ils sécurisaient souvent avec des sacs de sable, de la boue, du bois, et souvent, quand ils avaient rien d'autre, ils mettaient des corps morts.
Et là, on est devant un autre panneau qui s'appelle ?
Moment de détente. Donc, ça consistait à la pause entre la bataille ou dans les lignes arrière. Dans les tranchées.
Vous avez préparé cette exposition avec ta classe ?
Oui, on a préparé ça avec ma classe et également l'autre classe, donc la 3e B et la 3e A. Et on a mis une semaine.
Une semaine pour tout préparer ?
Oui, parce qu'il fallait ramener du matériel, donc j'ai ramené un casque. Notre professeur, M. Esteban, il a ramené de l'art des tranchées et des cartes postales.
Alors le casque que tu as ramené, il vient d'où ?
Il vient de la guerre de 40, c'est le modèle Adrian. C'est un modèle qui a été construit pendant la guerre de 14-18, donc c'est un modèle assez rapide à construire parce qu'il fallait produire des casques en masse, et il a été réutilisé pendant la guerre de 40.
Et tu l'as eu où ?
Je l'ai eu au marché du Quintaou.
Donc tu as été faire des marchés ?
Ouais, c'est un peu ça, et puis j'ai négocié un petit peu de temps, donc voilà.
Alors tu l'as eu à quel prix, on va tout savoir ?
Au départ, je devais l'avoir à 50 et là, je l'ai eu à 30.
Tu es bien débrouillé quand même.
Oui, un petit peu.
Qu'est-ce que tu retiens de cette exposition et qu'est-ce que Qu'est-ce que tu retiens finalement de la guerre de 14-18?
Bah déjà, c'est un conflit des plus meurtriers. On s'intéresse plus au conflit qu'il y a eu dans l'Europe, donc les morts en Autriche, chez les Allemands, chez les Luxembourgeois et chez les Français. Et faut savoir que le génocide juif n'est pas le seul. Donc il y a eu aussi le génocide arménien qui est aussi terrible. Et c'était exactement la même chose, c'était mécanique, industriel, et on tuait des gens en masse et ça fait exactement comme la même chose. C'est un crime de guerre et pourtant celui-là, il a moins marqué les esprits.
Oscar, parle-nous un peu du quiz avec Maxime.
La première question, c'est quel conflit a déclenché la Première Guerre mondiale ? C'est l'attentat de...
L'attentat de Sarajevo.
De l'archiduc Ferdinand.
Précisez un peu.
De l'archiduc François Ferdinand. Donc,
Alors, il y a un autre élève qui s'est rajouté. Comment tu t'appelles ?
Ulysse.
Alors, avec Ulysse aussi.
L'attentat à Sarajevo. Donc, Sarajevo, c'est une ville qui a été conquise par l'Empire autrichien. Donc ça faisait partie de la Serbie, et comme certains nationalistes serbes ne voulaient plus d'Autrichiens, voulaient récupérer leur territoire, et ben ils ont assassiné l'héritier du trône d'Autriche, donc l'archiduc François Ferdinand.
Question suivante, Maxime.
Et la question suivante, c'est qu'est-ce que la mobilisation ?
La mobilisation, c'est quand on engage tous les hommes d'un pays
C'est le gouvernement d'un pays qui demande à tous les hommes de se mobiliser pour faire la guerre.
Certains hommes quand même restaient s'enfuyaient du pays. Et comme ici au Pays Basque, on est près de la frontière espagnole et les Espagnols étaient neutres, et des fois ils s'enfuyaient là-bas.
C'était les déserteurs, on les appelait comme ça ?
Oui, c'est déserteurs. Après, ça dépend, parce que soit on déserte, soit on refuse de combattre parce qu'il y a trop de morts. C'est ce qui s'est passé à Verdun. Les Français, ils n'ont pas gagné. C'est les Allemands qui ont dit stop, on arrête, il y a trop de morts.
Anecdote pour la mobilisation, il y a des hommes, des personnes âgées qui voulaient faire la guerre, mais ils ne pouvaient pas vu qu'ils étaient trop âgés.
Ils faisaient partie des régiments supplémentaires. Donc par exemple, ici c'était le 49e régiment d'infanterie. Donc là, ce sera le 249e régiment d'infanterie.
Mais vous en savez des choses quand même.
Oh. Oui, voilà, parce que... Bah oui, c'est bien, on a un bon prof d'histoire. Alors, comment appelle-t-on la première phase de combat entre la guerre 14 et début 1915?
La guerre de mouvement.
Voilà, la guerre de mouvement avec la cavalerie. Combien d'hommes les Français ont-ils perdu en Belgique le 22 août 1914? Statistique que Maxime s'en va tout de suite chercher. Bon, ça va prendre un petit peu de temps.
Ça, on a perdu 2200 hommes. 2200.
Ah oui, en Belgique.
1000 prisonniers et 200 soldats.
Question suivante. Gardez courage. Que font les prêtres dans les tranchées ? Donc, ils apportent du courage aux soldats.
Du courage seulement ou du réconfort ?
Ils apportent aussi du courage et du réconfort. Mais principalement, pour les morts, ça rapporte plus du moral et du courage. Question suivante. Les tranchées du 18e régiment d'infanterie, quelles sont les occupations principales dans les tranchées ? Alors, il y a, disons, l'écriture des lettres à sa famille. Donc, c'était l'une des activités les plus prises, les plus répandues dans les tranchées.
Et l'art des tranchées, c'est récupérer des obus.
Des obus, par exemple, ou des balles.
Et comme un briquet, des pots à fleurs, un cendrier, des ouvre-lettres.
Oui. On peut voir aussi sur la table qui est juste derrière nous deux grands pots à fleurs faits à partir d'obus. Donc il y en a un, il y a écrit Verdun dessus, et un les éparges. Donc les éparges, c'est une bataille peu connue dans la Meuse. Là-bas, on a fait intervenir les soldats bleus. Donc c'était une élite, une sorte d'élite de soldats qui était sous l'ordre de plusieurs lieutenants, eux-mêmes sous l'ordre d'un colonel. Avec quels matériaux étaient constituées les tranchées françaises ? Donc on va laisser répondre Ulysse.
Bah avec la terre, du bois et de la boue dans des sacs de sable. Hein. Ils servaient de tout ce qu'ils pouvaient. Ils creusaient, ils faisaient des fortifications. Après, ils creusaient sous terre pour faire des abris, pour se protéger des bombardements. Et après, ils sortaient des tranchées pour aller à l'assaut des autres tranchées. Après, ils mettaient aussi des barbelés pour protéger les tranchées des assauts allemands. Et puis voilà.
L'élite qui posait les barbeliers, on les appelait aussi les pionniers. Les pionniers, donc, qui étaient les seuls également, quand ils revenaient vivants de leur pose de barbelés, ils avaient droit, du coup, à un équipement plus développé. Et également, c'était les seuls à l'accès aux fusées à shrapnel. Donc, la shrapnel, c'est des balles qui explosent et qui font des dégâts.
Toi, tu connais tout, là. T'es un vrai passionné, quoi.
Légèrement. Et puis, il y a surtout la Seconde.
Légèrement ?
Il y a aussi surtout la Seconde Guerre mondiale. Ça, faut. Oui,
c'est important. C'est quelque chose.
Quand les gens nous disent, mais qu'est-ce que c'est la Somme, qu'est-ce que c'est Verdun,
c'est
des batailles.
C'est
des batailles de sang. C'est-à-dire, c'est idiot de pas savoir ce patrimoine culturel français. Donc.
Moi, franchement, je savais pas avant les cours d'histoire du prof. Donc.
T'as appris plein de choses.
Oui. Surtout, je regarde plein de films le soir, quand je me couche trop tôt le soir.
Panneau 4-2, les tranchées. Que faisait le soldat pour sécuriser les tranchées? Donc, on va laisser répondre Edouard.
Eh bien, il posait des fils de fer barbelés pour éviter qu'ils se fassent envahir les tranchées et qu'ils attaquent.
Donc là, c'est la dernière question. Sur le chemin des dames, quelle sorte de guerre est la Première Guerre mondiale?
C'est une guerre industrielle.
C'est une guerre de position. Vu qu'ils creusaient des tranchées tous les deux.
Mais c'est aussi une guerre industrielle.
C'est une guerre de position. La première partie, une guerre de mouvement. La deuxième partie, une guerre de position. Mais c'est aussi une guerre industrielle parce qu'ils prenaient le contrôle des usines et tout.
Ouais, c'est la première fois qu'il y a autant de soldats mobilisés. Par exemple, à Verdun, je crois, il y a combien d'obus tirés le premier jour?
Combien d'obus? C'est 300 000.
Oui, 300 000. 300 000 juste le premier jour, c'est énorme.
300 000 le premier jour. Et donc, par heure, on a compté, je crois, c'est 10 000 obus tirés par heure. Donc, en comptant les artilleries, en comptant l'artillerie belge, écossaise, anglaise et...
Allemande
aussi, et française.
Et vous avez des membres de vos familles qui ont fait la Première Guerre mondiale, vous le savez?
J'en sais rien.
Si on compte bien tout le monde dans chaque famille, tous nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents ont au moins fait une guerre.
Mon arrière-grand-parent qui est mort quand j'avais 2 ans a fait la Première Guerre mondiale.
Combien il y a eu de morts pendant cette Première Guerre mondiale, vous le savez?
La Première Guerre mondiale, il me semble, c'était 10 millions de morts.
Je crois 10 à 11 millions.
Ouais. 10 millions de morts. On va demander à M. Esteban pour...
Ouais. Donc en totalisant toutes les pertes, on atteint largement au-dessus des 10 millions.
Michel Esteban, les élèves ont dit qu'il y avait eu 10 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que le chiffre est bon?
Absolument. Ces élèves ont bien appris leur leçon. Ils ne font pas uniquement qu'organiser une exposition. Ils apprennent, ils étudient, ils font des évaluations. Ils ont des contrôles, ils ont des obligations. Et ce sont des élèves qui ont bien travaillé, on peut le dire.
Vous préparez donc ce voyage que vous allez faire dans quelques temps, à quelle période et qu'est-ce que vous allez aller voir?
Pour 2018, donc à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, nous nous rendons en Moselle et en Alsace et nous allons particulièrement travailler sur le site de la bataille de Verdun. On va y travailler, c'est pas uniquement un voyage, encore moins un voyage touristique, c'est véritablement un travail scolaire qui se prépare tout au long de l'année en s'intéressant aux soldats poilus de Biarritz qui sont morts à la bataille de Verdun. Et il s'agira de reconstituer l'histoire de ces jeunes, parce que ce sont en majorité des jeunes, de ces jeunes qui sont morts dans des conditions effroyables, donc, et de retrouver leurs traces sur le site de la bataille, que ce soit à travers des lieux où ils ont décédé, et là nous les connaissons à travers les archives, et puis également trouver leurs traces dans les cimetières de Croix-Blanche. Voilà, et retrouver leur nom. Alors c'est une dernière phase, on va dire, pédagogique sur cette période de la guerre, qui est absolument émouvante lorsqu'on amène des élèves sur place, ils se retrouvent face à 15 000 croix blanches, avec évidemment les noms, les prénoms et l'âge de ces soldats qui sont morts. C'est assez éprouvant, mais on le prépare avec les élèves. En tout cas, là, ils prennent conscience réellement de l'absurdité de la guerre, en termes généraux. Voilà. C'est là qu'ils prennent conscience. Au départ, ils sont beaucoup plus dans le jeu. C'est quelque chose de lointain, il y a 100 ans, un peu plus même, 1914. Donc, il y a des objets, il y a des BD, ils sont plus dans une approche, on va dire, ludique, quelque part. Certes, ils apprennent, mais aussi ludique. Voilà. Et lorsqu'on se retrouve sur le site, là, on prend conscience de l'horreur d'une guerre.
Michel Esteban, pour ceux qui voudraient visiter cette exposition qui est donc au Collège Immaculée Conception de Biarritz, comment faut-il faire?
Alors c'est très très simple, il suffit de prendre rendez-vous, hein, d'appeler le Collège Immaculée Conception à Biarritz pour pouvoir visiter l'exposition. Elle est donc publique, hein, mais il faut prendre rendez-vous tout simplement, et puis là il y aura un élève qui sera un guide, hein, qui pourra conduire et expliquer très précisément aux visiteurs les objets qui sont présentés, à quoi ils servaient, qu'est-ce que c'est, quel type de document, et puis qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en faisait, et pourquoi on l'étudie maintenant, etc. Toutes les questions que l'on peut se poser. Et les élèves eux-mêmes du collège ont une activité pédagogique entre midi et deux, où là, ils vont devoir répondre à des quiz qu'ont préparé d'autres élèves. Alors, ils vont y répondre en utilisant les tablettes informatiques, hein, que nous avons à disposition pour les élèves ici. Et puis, ils vont pouvoir aussi analyser certains films, notamment nous avons travaillé sur Cheval de guerre, qui est à la fois un roman, mais qui est également un film, avec des séquences, hein, vidéo qui vont être analysées par les élèves eux-mêmes et par leur professeur.
Merci à Michel Esteban, professeur d'histoire-géographie, et merci à tous les élèves qui ont participé à cette émission. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir voir cette exposition au Collège Immaculée Conception de Biarritz. C'est une manière de soutenir ces élèves qui ont réalisé cette magnifique exposition. Voici le numéro du Collège Immaculée Conception de Biarritz, le 05 59 22 11 02 05 59 22 11 02.